on récolte le café à la machine ou à la main. Est-ce que ça a une incidence sur la qualité du café?
Oui, bien sûr, ça a une incidence, mais c'est surtout à la main. Mais il n'y a que quelques pays où on, enfin, quelques endroits où on peut mécaniser la récolte, principalement au Brésil, pour une question de surface et d'implantation des
plantations. Oui, parce qu'on est sur de la plaine, voilà. Donc c'est plus facile, voilà, de mécaniser. C'est comme le
c'est
vin.
Possible.
On mécanise quand on peut.
Ça alors que souvent, on est sur des coteaux, et là, sur les coteaux, c'est pas possible.
Il faut des petites machines maintenant pour vendanger sur les coteaux. Si vous allez à Chablis, vous verrez ça. Les méthodes pour extraire le noyau du fruit, on fait comment?
Il y a deux méthodes.
Ouais.
La méthode sèche et la méthode humide.
Voilà, alors c'est quoi?
La méthode sèche, on fait sécher les cerises sur des aires de séchage, des aires cimentées, des clés. Et lorsque la cerise est complètement sèche et que la pulpe a disparu, on décortique, on enlève la partie extérieure et ensuite on récolte donc du café qui est en parche, c'est-à-dire recouvert d'une petite pellicule et qui est déjà sec. Et la méthode humide, on le fait tremper dans des bains de manière à justement amollir cette cerise.
Un petit peu de produit chimique pour que ça.
Pas du tout, non, non, c'est de l'eau pure, c'est de l'eau pure. Oui, tout à fait.
Non, jamais.
Et d'ailleurs, c'est même très contrôlé dans des pays comme en Amérique centrale, Costa Rica et autres.
Ah oui, c'est pour le décaféiner qu'on met un petit peu de saloperie quand même.
Non, c'est juste pour enlever la caféine.
À l'époque, oui, c'est vrai.
Le professeur Guigrand pourra vous répondre là-dessus.
Et alors, vous êtes méthode sèche ou méthode humide?
Ah ben, les deux, parce que tout à l'heure, Monsieur Laugeroy a parlé de deux grands crus du café, le Moka Harare et le Moka Sidamo. Le Moka Sidamo, c'est un café traité par méthode humide. Le Moka Harare, c'est un café traité par méthode sèche.
Pas d'influence sur la qualité.
Quand même, bien souvent, les meilleures qualités sont traitées par voie humide.
Dites-moi, alors, vous qui achetez en gros, l'hyperspéculation autour du café, ça a une influence sur ça, sur la qualité?
Ben, l'hyperspéculation, vous savez, elle n'est pas le fait des professionnels. C'est un marché de matières premières. Et en général, les professionnels que nous sommes, nous-mêmes, Monsieur Laugeroy, et puis on est tous soumis aux fluctuations des cours, comme il existe un cours aujourd'hui du dollar. Et si vous voulez aller aux États-Unis demain, vous allez devoir acheter vos devises au cours du dollar du marché. Et on est soumis aux mêmes aléas. Et nous, on essaye au contraire de ne pas avoir de fluctuations de cours. Ce qui se passe, c'est que d'abord, il y a des problèmes de production, de récolte, et donc il peut y avoir des variations à cause d'incidents. Des gelées au Brésil, par exemple, c'est souvent les incidents majeurs.
Oui, mais et puis, fait tous les ans le coup de la
gelée au Brésil. Pas tous les ans.
Tous les deux ans.
Non,
il y a des mecs qui se sont cassés la gueule en faisant courir le bruit qu'il allait geler alors qu'il fait
ça. Ça va se tasser puisque l'atmosphère se réchauffe.
Oui, mais c'est
ça a tendance à disparaître.
Il un autre truc.
Mais il y a des spéculations, c'est certain, sur le
bruit. Il y a des spéculations. Vous le confirmez bien.
Oui, parce que c'est une matière première et c'est un marché mondial, donc effectivement, il peut y avoir même des fonds de placement qui opèrent sur ces marchés.
Oui, mais alors, comment vous m'expliquez quand la grande distribution vous vend du café dans une... enfin, pas la grande distribution, les grandes marques, et puis vous, les petits torréfacteurs, il y a des écarts qui font froid dans le dos?
Ah ben oui, il peut y avoir des écarts importants, mais je crois que souvent, ça tient, comme l'a dit Monsieur Laugeroy, au service également qui est apporté.
Vous croyez pas surtout, c'est que les industriels s'en foutent, ils mettent un peu n'importe quoi dans leur paquet, ils font des mélanges, qu'il y a des coûts de torréfaction.
Non, ça c'est... Maintenant, il y a eu un net progrès, d'ailleurs, M. Frétillier l'a signalé, le pourcentage d'Arabica a nettement augmenté, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de produits de qualité. Mais c'est un marché global, il y en a pour tous les goûts, et il peut y avoir des cafés effectivement moins chers et plus ordinaires.
Est-ce que vous trouvez, M. Laugeroy, que c'est normal que chez vous ça coûte si cher le café? Est-ce que c'est justifié que le petit torréfacteur vende le café très très cher?
Justifié.
Alors je sais bien, vous avez un service, vous empaquetez à la main, enfin quand même.
Oui, absolument. Vous savez, la différence entre un bon et un mauvais café, ça représente à la fin de l'année à peu près 200 ou 300 francs, grosso modo. Pour une consommation de 5,4 kg par habitant, comme vous le disiez tout à l'heure, donc je pense pas que ça c'est une grosse influence. Je crois que le client qui vient chez nous sait qu'il va le payer plus cher, mais il faut que ce soit irréprochable. Je crois que ça c'est là où on nous attend en tournant, de toute façon. Mais jamais j'ai eu des réflexions à ce niveau-là. Les gens acceptent très bien de payer le prix dans la mesure où c'est vraiment très bon que ça sorte de l'ordinaire, ça c'est certain. Et dans la mesure où on leur apprend, où on leur, on les fait rêver sur un café qu'on va recevoir. Bon, je fais pas comme Monsieur Verlet, je mets pas Blue Mountain dans un mois. Mais bon, en ce moment, on a reçu un Arabica des Indes qui est excellent, qu'on vend très bien. Bon, on n'avait pas vendu depuis 5 ou 6 mois. Les gens acceptent très bien de payer plus cher dans la mesure
où c'est très bon. Vous gérez la crise pour faire monter le prix. Voilà. C'est pas con. On a évoqué tout à l'heure les assemblages. La différence entre la torréfaction industrielle et la torréfaction artisanale, c'est quoi, finalement?
C'est une question de temps, déjà. Une question de machine.
De temps. Machine,
oui,
parce vous.
Oui, une question de temps, mais pas forcément... Aujourd'hui, les industriels torréfient principalement de deux manières, soit comme les artisans, c'est-à-dire sur une quinzaine de minutes à peu près, 15 à 20 minutes par broche. La broche, c'est la quantité de café que l'on va torréfier en une seule fois. Et certains matériels permettent de torréfier un peu plus rapidement, en environ 6 minutes.
Ça, c'est ce que vous appelez la torréfaction flash.
Alors la torréfaction flash, non, ça c'est un procédé qui permettait de torréfier en une minute et demie,
oh là,
mais qui aujourd'hui n'est plus utilisé pratiquement.
Ah bon?
Parce qu'effectivement ça a entraîné une certaine modification dans le goût du café final, et ce qui n'était pas souhaitable parce que tous les professionnels du café, les industriels comme les artisans, recherchent d'avoir le meilleur goût possible par les produits qu'ils utilisent.
Elle est utilisée pour les cafés premier prix robustes.
À ma connaissance,
ça permet d'enlever l'amertume
Non, parce qu'aujourd'hui, la torréfaction flash, elle entraînait surtout une augmentation de l'acidité. Les cafés Robusta, ça pourrait entraîner justement une augmentation de ce...
Dites-moi, de l'amertume. Monsieur Meoxon, vous n'êtes pas, pardonnez-moi cette expression, vous n'êtes pas un peu le cul entre deux chaises là pour nous répondre? Parce que par moments, j'ai l'impression que vous répondez comme si vous étiez un petit torréfacteur de quartier, c'est-à-dire comme notre ami Logeron, et puis d'un autre côté, vous répondez comme si vous étiez un industriel.
Ah non, je me sens pas mal à l'aise du tout, parce que vous voyez, je pense que je suis justement la preuve que l'on peut à la fois vendre du café dans des petites boutiques, ouais, de manière artisanale, et également en vendre en grande distribution de qualité. Donc je crois que les deux peuvent cohabiter, tout à fait. Mais...